Vous êtes sur RTL.
13h, 14h.
Focus dimanche sur RTL.
Avec Mohamed Bouafsi.
Bienvenue dans Focus dimanche, l'émission avec ceux qui font l'actualité de la semaine. Chaque jour sur l'application RTL, vous avez rendez-vous avec Focus, le podcast quotidien de la rédaction où Marion Calais développe un titre de l'actualité. Chaque dimanche, on se retrouve avec les personnalités qui font l'actu de la semaine.
Focus dimanche,
Mohamed Bouafsi.
Annulation ou report d'examen, épidémie de bronchiolite, déprogrammation de soins. Emmanuel Macron, sauvez nos enfants. C'est le cri de plus de 4000 pédiatres au président de la République. François est un papa qui a dû faire 2h30 de route pour soigner sa fille. Le ministre de la Santé, François Braun, écoutera François et répondra à toutes nos questions. 21 degrés à Paris, 23 à Metz et Toulouse, 24 à Vichy. Ce dimanche est très ensoleillé en France. Cette douceur, elle est très inquiétante à cause du changement climatique qui entraîne aussi des changements de vie. Laurent était viticulteur à côté de Leucate, entre Narbonne et Perpignan. Il est devenu producteur d'aloe vera depuis quelques années en raison du changement de température. La Russie de Vladimir Poutine continue d'agiter la menace nucléaire. L'ancienne ambassadrice de France à Moscou est mon invitée. Et surtout, ne ratez pas dans quelques secondes le témoignage de Gleb. Il a fui la mobilisation générale voulue par Vladimir Poutine. Il a quitté la Russie à pied pour la Finlande. Il est arrivé en France la semaine dernière.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus dimanche.
C'est un SOS de 4000 pédiatres en détresse. Des médecins qui ont publié une lettre ouverte au président Macron. Ils évoquent les fermetures de services pédiatriques, les déprogrammations d'opérations des soignants en tension après l'épidémie de bronchiolite. François Braun est le ministre de la Santé. Il est l'invité de Focus dimanche sur RTL. Bonjour François Braun.
Bonjour.
Monsieur le ministre, avant de vous donner la parole, je voulais partager avec vous deux témoignages. Celui d'Imane, la maman d'Abel, et celui de François, un père de famille médecin. Ses deux parents ont vécu l'horreur. Bonjour Imane.
Bonjour.
Imane, vous êtes la maman du petit Abel. Vous venez de sortir il y a quelques minutes de l'hôpital puisque votre enfant était victime d'une laryngite. Il est sujet à ça depuis quelques mois et notamment depuis ce qui vous est arrivé en juillet 2022, il y a quelques mois. Racontez-nous ce qui vous est arrivé au Sable d'Olonne.
On a eu en fait au mois de juillet notre fils qui s'est réveillé un matin avec de la fièvre. Sachant qu'il était en pleine poussée dentaire, on n'a pas fait plus de cas. Sauf qu'arrivé le soir, il peinait à respirer. C'était une respiration vraiment très forte. Voilà. Et on a décidé de se rendre aux urgences des Sables-d'Olonne. Malheureusement, on ne nous a pas fait rentrer. On nous a dit d'appeler le SAMU.
Pourquoi on ne vous a pas laissé rentrer, Imane?
Alors, on nous a expliqué, parce que ce soir-là, il n'y avait qu'un seul médecin. Il faut savoir que c'était la semaine du 14 juillet, donc ils avaient beaucoup de patients. On a dû se rendre à l'hôpital de La Roche-sur-Yon, puisque l'hôpital des Sables ne pouvait pas nous faire rentrer.
Imane, on vous a donc laissé à la porte d'entrée de l'hôpital, oui, avec votre fils en crise respiratoire.
Oui, oui, tout à fait, c'est ça. J'avais beau leur expliquer qu'il y avait vraiment un problème. Et voilà, alors j'ai bien senti que la personne à l'interphone des urgences était gênée un peu de me expliquer qu'elle ne pouvait pas me faire rentrer. Mais bon, je vous laisse imaginer l'état d'une jeune maman, d'un jeune papa, quand son bébé lutte à respirer et qu'en fait, on s'est senti vraiment seul au monde. On s'est senti abandonné, clairement.
Et vous avez tenté d'appeler le 15 sans réponse.
C'est ça. On a essayé d'appeler le 15. On a attendu 20 bonnes minutes. Ça ne répondait pas. Entre-temps, mon conjoint a essayé d'appeler les pompiers. Les pompiers nous ont transférés sur le 15. Mais on n'a jamais eu de réponse.
Et vous avez dû ensuite prendre la route pour rejoindre l'hôpital de La Roche-sur-Yon. Vous êtes à combien de temps de l'hôpital de La Roche-sur-Yon? Un peu plus d'une demi-heure, c'est ça?
À peu près une demi-heure, oui, c'est ça, oui.
Dans quel état d'esprit on est dans la voiture, quand on doit rouler vers La Roche-sur-Yon?
Paniqué, vraiment, et d'autant plus que mon bébé, à ce moment-là, qui avait 7 mois, était complètement paniqué aussi. Donc, plus il paniquait, plus il peinait à respirer. Ça a été très, très dur. Donc, voilà.
François Braun, vous êtes un ancien urgentiste, médecin.
Bonjour.
Vous êtes toujours, mais vous êtes désormais ministre de la Santé. Je vous voyais hausser les yeux sur le témoignage de Imane. Ça vous scandalise? Ça vous choque?
Oui, ça me choque. Bonjour, madame. Déjà, j'espère que votre enfant va mieux. Là, on m'a dit qu'il avait fait de nouveau une crise aujourd'hui.
Oui, il a refait une crise cette nuit et on nous a pris en charge rapidement. Ça a été très vite cette fois-ci, donc il a pu se remettre plus vite, oui.
Bon, très bien. Mais effectivement, la situation que vous décrivez est une situation que, qu'en tant que médecin déjà, et puis en tant que ministre de la Santé encore plus, je ne peux pas accepter. C'est-à-dire c'est une inégalité de prise en charge. C'est terrible ce que nous... C'est bien contre ça que moi je veux me lever et mettre tous les moyens pour qu'on n'ait plus ce genre de situation.
Et d'ailleurs, Monsieur le Ministre, la semaine dernière, vous l'avez répété après ce cri d'alarme des médecins, des pédiatres, il faut appeler le 15. Là, Imane, avant même votre prise de parole, elle a respecté vos consignes, elle a appelé le 15 et elle n'a pas eu de réponse.
Oui, alors là, bon, je connais pas ce cas précis par rapport aux appels au 15. Les appels au 15, c'est 26 millions d'appels par an, c'est globalement plus de 95% de réponses rapides, 75% de réponses dans la minute. Mais tout ça, c'est des chiffres qui veulent rien dire face à une situation comme ça, d'angoisse. Et moi, je ressens bien l'angoisse des parents face à un petit. On a tous des enfants, on a tous vécu des situations difficiles. Et c'est typiquement des situations que je ne veux plus voir se reproduire. Et si je suis là, c'est justement pour redonner aussi à cet hôpital public son sens. Et le sens de l'hôpital public, c'est d'abord de prendre en charge ces urgences, ce type de patients, et puis bien sûr après d'avoir des missions d'excellence et de faire de ce qu'on appelle de l'activité programmée, c'est-à-dire des choses qu'on programme d'une semaine sur l'autre. Mais ces urgences, c'est vraiment le cœur de notre système.
Vous êtes resté combien de temps, Imane, devant l'hôpital des Sables?
Je dirais une grosse demi-heure.
Avec votre bébé dans les bras?
Oui, avec mon bébé dans les bras qui luttait pour respirer, qui pleurait, hurlait même. Hein. Et oui, en essayant de convaincre la personne que j'ai eu à l'interphone de me faire rentrer. Voilà.
C'est une erreur, François Braun.
Alors,
c'est une faute.
Je ne vais pas aller jusque-là parce que je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Moi, ce que je trouve pas normal, c'est que, en n'ayant pas de réponse au conseil qui vous était donné, madame, par ce téléphone ou cet interphone, il y a un moment donné où on doit dire, venez. Enfin, si vous n'avez pas de réponse, si le SAMU ne répond pas, bien sûr, entrez. Je suis malheureusement, et c'est dur de dire ça pour un ministre, je suis un peu démuni face à cette situation parce que j'aurais tendance à vous dire et à dire aux parents quand vous êtes inquiets, fortiori en cette période, où on a une épidémie de bronchiolite, justement, faites le 15, vous allez avoir une réponse rapide et on va pouvoir vous orienter ou vous envoyer même une équipe s'il y a des signes de gravité. Et là, même le numéro n'était pas joignable. Donc il y a quelque chose qu'il faut creuser et aller voir exactement ce qui s'est passé parce que c'est une situation qu'on ne doit pas vivre et qu'on ne doit surtout ne plus vivre.
Et ce qui est digne dans votre discours, Imane, c'est que votre enfant a été traité à l'hôpital de La Roche-sur-Yon, soigné. Imane, vous n'en voulez pas au monde hospitalier?
Oui, au contraire, non, moi je soutiens le milieu hospitalier. J'ai complètement conscience de leur surcharge de travail, notamment aussi, faut se le dire, il y a beaucoup de personnes qui viennent aux urgences pour de la bobologie. Hein. Et moi, clairement, quand je suis allée à l'hôpital de La Roche, on nous a dit que c'était un cas vital, que mon fils, à ce moment-là, si on n'avait pas pris l'initiative de se rendre à l'hôpital de La Roche, ça aurait été un arrêt respiratoire.
En tout cas, madame, merci pour votre témoignage et pour résoudre les problèmes qui sont devant nous, les problèmes qui sont devant moi avec ces difficultés sur le système de santé. C'est vraiment la responsabilité de tous.
On manque d'urgentistes, on manque de médecins capables de soigner ces enfants qui arrivent à l'hôpital. On a vu dans ces mots de ces 4000 pédiatres, certains qui disaient parfois, il nous arrive de trier les enfants. Ce n'est pas possible, c'est inaudible pour les Français, François Braun.
On manque de tout, il faut être clair, il faut être honnête vis-à-vis des Français, on manque de tout, suite à des dizaines d'années de politiques restrictives sur le système de santé et sur l'hôpital. Heureusement inversé très clairement, moi je le dis vraiment inversé depuis 2017, depuis l'arrivée du président de la République avec l'arrêt du numerus clausus qui a permis d'augmenter 13% quand même le nombre de gens qui rentrent dans les études, augmentation du nombre d'infirmières, etc. Mais tout ça n'aura pas d'effet demain. Oui. Ce que je veux dire aux Français, c'est qu'arrêtons de croire ceux qui vous disent qu'il suffit de claquer des doigts pour avoir des médecins et des infirmiers. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. une fois qu'on a posé ce problème, on voit bien qu'il faut qu'on s'organise différemment, qu'on libère plus de temps pour les médecins, qu'ils fassent moins de travail administratif, qu'on partage un petit peu notre activité avec les autres professionnels de santé. C'est comme ça qu'on va réussir à remonter la pente.
Merci beaucoup, Iman. Merci d'avoir été avec nous dans Focus
vous,
Dimanche. On souhaite plein de bonnes choses à votre fils, Abel.
Merci beaucoup.
Et bon rétablissement après cette crise de laryngite. François Braun, vous restez avec nous en studio. Tout de suite, vous allez dialoguer avec François. Sa fille, Agathe, a été victime d'une bronchiolite. Elle a été transférée dans un hôpital à 250 km de son domicile. C'est dans quelques secondes sur RTL.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus dimanche.
13h, 14h.
Focus dimanche sur RTL.
Avec Mohamed Bouafsi.
Le ministre de la Santé, François Braun, est l'invité de Focus Dimanche sur RTL. François Braun, je voulais organiser cet échange avec François. Il est médecin, comme vous. C'est le papa de la petite Agathe, elle a 2 ans. Il a vécu un épisode traumatisant avec les hôpitaux pédiatriques. Bonjour François.
Bonjour.
François, racontez-nous ce qui est arrivé à Agathe.
La semaine passée, Agathe a développé des symptômes viraux, je dirais banals. Hein. Un rhume comme elle peut l'avoir souvent, elle a 2 ans, donc... Rien d'inhabituel. Et puis le lundi soir, elle s'est sentie moins bien. On a appelé nos pédiatres qui nous ont dit que si ça persistait, ils la verraient le lendemain. Et puis finalement, le lendemain soir, elle s'est vraiment dégradée rapidement sur le plan respiratoire. Et sur les conseils de nos pédiatres, nous sommes allés aux urgences à côté de notre domicile, à l'hôpital Ambroise Paré, où elle a, contrairement à la dame avant moi, pu bien sûr être prise en charge très rapidement. Elle a une radiographie et des prélèvements viraux qui ont montré qu'elle avait une infection virale du virus de la bronchiolite et celui du Covid et qu'il fallait la garder en hospitalisation car elle avait besoin d'oxygène. Donc finalement, c'est plutôt bien passé, mais le lendemain matin, ma femme m'a appelé en me disant que son état respiratoire s'était rapidement dégradé le matin et qu'il allait falloir la transférer en réanimation pédiatrique pour avoir des mesures d'oxygénation nécessaires. Elle devait aller initialement à Garches, à côté, et puis finalement, il n'y avait plus de place à Garches, et puis elle avait la dernière place d'Île-de-France au Kremlin-Bicêtre, et puis on nous a rappelé encore 10 minutes plus tard pour nous dire que finalement, il y avait un enfant plus urgent que le nôtre qui était hospitalisé en urgence après un polytraumatisme. Et donc, notre fille a été transférée à l'hôpital de Rouen en réanimation médicale, en raison d'absence de place sur l'ensemble de l'Île-de-France. Donc ma femme et Agathe sont parties avec un camion de SAMU. Je suis parti en urgence de l'hôpital et à Rouen, où Agathe a été hospitalisée 4 jours en réanimation pédiatrique pendant 4 jours. C'était assez terrible. Hein.
Je la sens, François, cette émotion. Elle est encore présente.
Il y a une émotion qui est évidemment présente. Hein. La dame avant moi n'est pas médecin, mais quand on a un enfant de 2 ans qui ne peut plus respirer, on n'est plus médecin, on n'est papa.
Oui, je comprends. On parle des déserts médicaux, on va l'évoquer dans quelques secondes avec vous. Là, on est en zone urbaine. C'est la banlieue de Paris, c'est collé à Paris, Boulogne-Billancourt. 2 hôpitaux, Garches et le Kremlin, qui refusent la fille de François. Là aussi, pour les auditeurs d'RTL aujourd'hui, mais un petit peu pour moi aussi, c'est inaudible. Cette situation, et c'est un autre problème.
Ouais. Il n'y a malheureusement pas qu'un seul problème sur le système de santé. Bonjour, bonjour François, comment va Agathe déjà ?
Ah oui, c'est important de le dire, Agathe va hyper bien. Bon. Agathe est complètement remise.
Bon, très bien. C'est malheureusement une situation qui n'est pas nouvelle. Alors, ça ne résout rien une fois que j'ai dit ça, mais juste pour vous donner 2 chiffres. 150 000. 150 000, c'est le nombre de transferts que le SAMU fait tous les ans entre hôpitaux. C'est 400 par jour. Et sur ces 400, il y a un peu moins de 10%, ce sont des enfants. Tout ça pour dire que ces transferts, c'est quand effectivement les capacités d'un hôpital ou de plusieurs hôpitaux, même à l'échelle d'une région, et on s'interroge toujours sur l'Île-de-France, on imagine qu'on a tout ce qu'il faut en Île-de-France, les capacités sont insuffisantes. Elles sont insuffisantes parce que elles sont par nature insuffisantes, c'était le cas de la crise Covid dans la région Est par exemple, ou elles sont insuffisantes parce qu'on a dû fermer des lits par manque de personnel. Donc dans ces situations, il y a 2 solutions. Soit on reste sur place, mais dans des conditions qui ne sont pas idéales, c'est-à-dire pas forcément dans un service de réanimation, dans un lit pas forcément adapté, avec du personnel pas suffisamment compétent pour ce genre de cas. Moi, je suis assez opposé à cette situation parce qu'elle fait prendre un risque majeur aux petits patients ou même aux grands. Ou alors, on transfère à un endroit où il y a de la place et où on a une prise en charge qui est globale et qui est de qualité par des professionnels compétents. Je pense qu'il faut, dans ces situations-là, privilégier ce genre de solution. Alors après, vous pouvez me dire, mais pourquoi on n'a pas plus de lits en Île-de-France ? Moi, si demain, on me donne 20 000 infirmières de plus, je saurais dans quel service les mettre. Mais on ne les a pas. C'est un peu ce que je vous disais.
Mais il y a un problème d'envie. Aujourd'hui, il y a un problème de susciter l'appétence, j'ai envie de dire, de ce personnel pour l'hôpital.
Il faut redonner du sens à ce métier de soins. Ça, c'est un de mes objectifs extrêmement importants. Faire que les jeunes aient envie de venir à l'hôpital, parce qu'on va y travailler de façon agréable, en équipe, avec de bonnes conditions de travail, et que les plus anciens restent dans l'hôpital, parce que ce sont eux qui ont la compétence, la connaissance. Une infirmière qui a fait 20 ans de service d'urgence, elle est très compétente.
Le président Emmanuel Macron a lu cette tribune de 4150 pédiatres. Il vous a demandé, ainsi qu'à la première ministre Elisabeth Borne, un plan d'urgence et tout de suite 150 millions d'euros accordés à la pédiatrie en France. C'est suffisant ?
Non, c'est pas suffisant. C'est évident que c'est pas suffisant. On a un double problème. On a un problème conjoncturel, un problème structurel. Voilà notre souci. Ce problème conjoncturel, c'est la situation actuelle avec, pendant cet été, les difficultés des urgences, des maternités aussi, de la psychiatrie. Là, l'épidémie de bronchiolite qui arrive plus tôt, donc les difficultés autour de la pédiatrie. Donc, il faut qu'on réponde à l'urgence. Il faut qu'on traite le symptôme. Il faut qu'on traite la fièvre, par exemple. Mais si on ne fait que traiter la fièvre, ce qu'on a fait pendant des décennies, on ne traite pas la maladie. Or, il faut traiter la maladie de l'hôpital. Ça, c'est dans un deuxième temps. Traiter la fièvre, effectivement, c'est des moyens financiers pour améliorer les choses sur le travail de nuit, pour faciliter les heures supplémentaires, pour effectivement essayer de recruter plus facilement du personnel. On ne va pas tout résoudre, mais on va avoir cette faire baisser la fièvre. Et ensuite, traiter le fond de la maladie, c'est ce que nous démarrons là. Le travail avec l'ensemble du monde de la santé de l'enfant, parce que c'est pas que la bronchiolite, c'est toute la santé de l'enfant qu'il faut revoir. Et puis je l'ai annoncé, impulsé par la première ministre, ces assises de la santé de l'enfant qui seront au printemps, qui seront pas pour commencer à travailler. Les assises, ça va être au contraire les conclusions du travail qu'on engage et puis les décisions, cette feuille de route, comme cela a été fait à l'initiative du président de la République sur la santé mentale il y a un an.
Merci encore François d'avoir été avec nous dans Focus dimanche sur RTL. François Braun, vous restez en studio. On a encore plein de questions à vous poser. Est-ce que vous craignez une nouvelle vague de Covid ? Est-ce que l'on va connaître une pénurie de paracétamol ? Est-ce que vous comptez légaliser le cannabis ? Vous nous répondez dans quelques secondes dans Focus dimanche.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus dimanche. RTL.
Focus dimanche.
Mohamed Bouafsi.
François Braun, le ministre de la Santé, l'invité de Focus dimanche sur RTL. On a évoqué il y a quelques secondes la pédiatrie, la souffrance du système hospitalier en France. François Braun, en 2018, les déserts médicaux concernaient 18% de la population. En 2022, 30%. On fait comment, François Braun, pour se soigner quand on habite Pervenchère dans l'Orne, Le Noyer dans le Cher ou encore Rouvre-les-Bois dans l'Indre? On est vraiment égaux dans l'accès aux soins aujourd'hui en France?
Alors, on a en France une inégalité d'accès à la santé. C'est clair. Je crois que le diagnostic, tout le monde le fait. Tout le monde est d'accord. Cette inégalité, elle peut être de plusieurs types. On focalise, et c'est normal, sur ce qu'on peut appeler l'inégalité territoriale, donc ces fameux déserts médicaux, même si vous disiez un pourcentage de la population, enfin du territoire national. Je pense que partout il y a des déserts médicaux. Je crois qu'il faut là aussi avoir un langage de vérité. Cette inégalité d'accès territoriale, donc ces fameux déserts médicaux, il faut déjà bien voir de quoi l'on parle. Ces difficultés d'accès à un médecin, cette impossibilité d'accès à un médecin. 6 millions de nos concitoyens n'ont pas de médecin traitant aujourd'hui. À peu près 600 000, 650 000 qui sont atteints de pathologies graves, chroniques, ces affections de longue durée, qui n'ont pas de médecin traitant. Donc là, on est vraiment dans le dur, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que c'est inadmissible. On ne peut pas, en France, accepter cela. Alors, une fois que le diagnostic est partagé, on peut essayer de trouver des solutions. C'est mon objectif, de mettre des solutions sur la table.
Vous avez travaillé sur des plans flash. Aujourd'hui, est-ce que l'hôpital français a besoin d'un plan flash ? Est-ce qu'on est dans l'urgence ?
L'hôpital français a besoin d'un plan flash et d'un plan Marshall.
Un plan Marshall ?
Il a besoin d'un plan flash.
C'est fort, un plan Marshall, François Braun.
Oui, c'est fort, un plan Marshall. Mais vous savez, ce gouvernement, depuis 2017, a rajouté 53 milliards d'euros pour l'hôpital. Je veux dire, le plan Marshall, il a démarré. Il a démarré dans Ma Santé 2022 et il se poursuit et je vais le poursuivre. Alors, sur les déserts médicaux, pour revenir à cette problématique, Là non plus, je ne dois pas, il ne faut pas mentir aux Français en disant qu'on va tout régler en claquant des doigts et qu'il y a une solution à laquelle on n'a pas pensé depuis 50 ans et qui va tout régler. C'est pas vrai. Il y a un ensemble de solutions. Les déserts sont différents d'un endroit à l'autre. C'est pas les mêmes dans l'est de la Moselle, au pied des Pyrénées ou au milieu de la Bretagne. Donc là aussi, ça rejoint toute cette réflexion lancée par le président de la République sur le CNR santé. Bon. On a des solutions à court terme. Et le président de la République a annoncé hier, une des solutions à court terme, c'est permettre aux médecins jeunes retraités, actifs, de continuer à travailler dans de bonnes conditions. Donc, ils ne paieront plus leur cotisation retraite, ils pourront continuer à travailler. Un médecin qui a atteint l'âge de la retraite, qui veut travailler moins, et ça se comprend, surtout s'il est dans un territoire un peu isolé, il peut dire, j'ai envie de travailler encore un peu, peut-être que 2 jours par semaine ou 3 jours par semaine, mais voilà, je vais pouvoir le faire facilement. Et donc, je vais répondre à un besoin de la population de ce territoire. Ça, c'est une solution. Il y en a une autre solution, à relativement court terme, c'est redonner du temps médical. Du temps médical, c'est quoi ? Un médecin, en ville, 20% de son temps, c'est ce que nous disent les syndicats de médecins, c'est du travail administratif. Probablement 50% à l'hôpital. Ce travail peut être fait par quelqu'un d'autre. Ma Santé 2027, qui était portée dans le précédent quinquennat, 2022, pardon, pas 2027, elle a amené les assistants médicaux. Ces assistants médicaux, ils permettent d'augmenter la clientèle d'un médecin de 10%. Eh bien, je vais accélérer le déploiement de ces assistants médicaux, prioritairement dans ces zones sous-denses, pour qu'un médecin puisse prendre en charge plus de patients, sans travailler plus, mais en se concentrant sur le travail médical. À moyen terme, c'est favoriser la découverte de ces territoires pour les jeunes médecins. C'est cette quatrième année de médecine générale
qui provoque des tensions
parce qu'elle est souvent expliquée par le mauvais côté. Cette quatrième année, elle est faite pour améliorer la formation et elle est demandée. Et puis dire qu'il faut faire découvrir, profitons de cette année supplémentaire, mais aussi dès le début des études, ces zones rurales, mais aussi la périphérie des villes, parce que c'est comme ça que les gens auront envie de s'y installer.
Moins de 50% des Français qui ont plus de 60 ans ont reçu la quatrième dose.
Oui, c'est les doses de cet été. Sur l'automne, il faut le dire clairement, on est moins bon.
Oui, on est encore moins bon. On est descendu à 35, je crois, un petit peu moins.
Oh, non, on est moins. On est à 1 million de personnes seulement, à peu près, qui ont reçu leur vaccination Covid pour là, la campagne qui a débuté au début du mois, pour un objectif cible de l'ordre de 16 millions.
François Braun, on a vu il y a quelques mois partout à la télévision, à la radio, des messages pour rappeler à la vaccination. On va entrer dans l'hiver là, les maladies reviennent. On manque de pédagogie avec les personnes qui ont plus de 50 ans, les personnes qui sont à risque.
Non mais les messages sont aussi forts que les vagues précédentes.
On les voit moins à la télévision, François Braun. Vous ne pouvez pas le nier.
Il y a peut-être moins de relais aussi du côté des médias parce que la France a envie de passer à autre chose. Je ne peux pas en vouloir à mes concitoyens. On sort de 2 ans et demi de crise sanitaire. On a peut-être envie, et on le voit bien, on a envie d'autre chose. Mais les virus sont là, vous avez raison. Mais le Covid est toujours là. La grippe est là.
Vous le dites aux auditeurs de RTL, allez vous faire vacciner ?
Je dis à toutes les personnes qui ont des facteurs de risque, ces fameuses personnes cibles, grosso modo plus de 60 ans ou avec des maladies chroniques ou des maladies graves, je leur dis, faites-vous vacciner maintenant votre dose de rappel Covid et faites-vous vacciner contre la grippe. Ces maladies tuent, elles tueront encore, elles tuent toujours. Et si vous n'êtes pas dans ces personnes cibles, mais que vous êtes à côté de ces personnes, utilisez les gestes barrières. Les gestes barrières, ça marche même contre la bronchiolite du nourrisson. On se lave les mains, on met en masque quand on est dans une zone où on a beaucoup de personnes, une forte concentration de personnes, dans les transports en commun. Le comité scientifique l'a dit, c'est un conseil fort, c'est pas une obligation, parce que moi je crois en la responsabilité des Français.
Et quand on a le Covid et que ça ne devient pas grave, qu'est-ce qu'on prend, François Braun ?
On prend du paracétamol, entre autres. Mais là aussi, un petit message, si vous permettez, à nos concitoyens, puis aussi à tous mes collègues. Il y a un traitement quand on a le Covid et qu'on est une personne à risque. Ça s'appelle le Paxlovid.
Oui.
Il faut le prendre. Et tous mes confrères, je vous rappelle, le Paxlovid, c'est un traitement contre le Covid. Ça n'empêche pas de se faire vacciner, loin de là, mais c'est un traitement complémentaire très utile pour les patients à risque.
François Braun,
La journaliste de la rédaction Odile Pouget a rencontré une pharmacienne qui fait face tous les jours à l'inquiétude des Français concernant les potentielles pénuries de paracétamol.
Pour nous, c'est chronophage et stressant et on est obligé aussi, vis-à-vis des patients, de leur expliquer « Bon, bah là, celui que je vous donne habituellement est en rupture, je vous donne le même dans une autre marque. C'est la même chose, ne vous inquiétez pas. » Et puis, rappeler les gens au bon sens, qui viennent nous prendre 2 boîtes aujourd'hui et 2 boîtes dans 3 semaines. C'est mieux que d'en acheter 4 aujourd'hui. Ayons du bon sens, je pense que ça nous aidera beaucoup.
Ça, c'est le cri d'alarme d'une pharmacienne. Il ne faut pas faire de stock.
Non, nous ne sommes pas en pénurie de paracétamol. On a des problèmes d'emballage. Et je réunis tous les industriels du paracétamol pour voir exactement avec eux où est le problème. On a des difficultés d'accès à certains dosages, à certaines formes. Vous n'allez peut-être pas retrouver votre paracétamol Lioc, c'est-à-dire qu'on fait fondre sous la langue, mais ce sera peut-être une gélule à prendre. Mais en tout cas, moi, je trouve très...
Vous rassurez les Français, il n'y a pas de pénurie,
non,
on pourra en avoir
cet
hiver.
Et je trouve très responsable le message de cette pharmacienne qui dit « ne faites pas de stock ». Vous savez, comme moi, quand on dit « attention, il ne va plus y avoir de farine ou de pâte », tout le monde se précipite et on crée nous-mêmes la pénurie en faisant des stocks. On a du paracétamol, on aura du paracétamol. Les industriels nous disent que ces petites difficultés dans quelques semaines vont passer. Ne stockez pas, s'il vous plaît.
Il y a quelques jours, un célèbre humoriste, Bertrand Chamerois, avait expliqué qu'il aurait été ravi de partager des soirées avec vous puisqu'il a découvert que vous aviez dans votre jeunesse fumé du cannabis. C'est vrai ?
Je l'ai dit, effectivement, oui, c'est vrai. Je n'ai pas l'habitude de dire des carabistouilles. Oui, il m'est arrivé de fumer 2-3 joints dans ma jeunesse.
Vous êtes ministre de la Santé. Est-ce qu'il faut légaliser le cannabis comme c'est le cas dans plusieurs pays européens ?
Non, je suis formel. Non, pourquoi ? Parce que c'est... Alors, ça va faire un peu vieux post-68-art. Ce n'est plus le même cannabis. Je pense qu'il faut être très attentif à ça. C'est-à-dire que on a maintenant des plants qui sont trafiqués, y compris génétiquement, par des trafiquants pour rendre beaucoup plus addictif. Donc, ce n'est pas la même chose.
Pas de légalisation, pas de dépénalisation du cannabis ?
Pour moi, non, parce que c'est dangereux pour la santé.
Merci beaucoup, François Braun, d'avoir accepté mon invitation.
13h, 14h,
Focus Dimanche sur RTL.
Avec Mohamed Bouafsi.
Acculé, tendu, dépassé, inquiétant, déterminé. Tous les adjectifs y passent depuis quelques semaines pour évoquer l'état d'esprit de Vladimir Poutine selon les membres de son entourage. Cette semaine, le président russe a reconnu des difficultés économiques après les sanctions du reste du monde, tout en agitant la menace nucléaire au monde occidental. Bonjour Sylvie Berman.
Bonjour.
Vous êtes l'ancienne ambassadrice de France en Russie de 2017 à 2019. 41 années dans la fonction publique, ambassadrice à Pékin aussi. Une carrière riche. Merci d'être l'invité de Focus Dimanche. Avant d'évoquer avec vous la fuite en avant de Vladimir Poutine, un témoignage exceptionnel, rare. Bonjour Gleb.
Bonjour.
Vous avez quel âge Gleb ?
33.
33 ans. Vous faites partie de ces 300 000 hommes que Vladimir Poutine avait appelés à une mobilisation générale. Ouais. Et vous êtes parti quelques heures après ou quelques heures avant cet appel de mobilisation générale. Et on a vu ces vidéos de policiers russes qui contrôlent ces hommes et qui leur expliquent « Vous ne pouvez pas partir de la Russie. Vous ne pouvez pas bouger parce que vous seriez considérés comme des déserteurs. » Vous êtes parti comment de la Russie ?
En fait, je suis dans une position qui n'est pas si difficile comme position de beaucoup des autres gens parce que j'ai le visa Schengen, mais c'était visa touristique. Et beaucoup de pays ont déjà fermé les frontières.
Il y a 9 points de frontière entre la Russie et la Finlande. Ils ont été fermés assez rapidement après l'appel de mobilisation générale de Vladimir Poutine. Ça veut dire que vous êtes parti au dernier moment, Gleb, pour l'expliquer à tous nos auditeurs de Focus,
oui.
Focus Dimanche sur RTL.
Oui, c'était le dernier moment. C'est vraiment le choix qui n'est pas si facile. Ouais. Pour moi, c'était la question de relations, de liens avec mes proches.
Oui.
Et par exemple, mon père m'a demandé beaucoup de partir, ce qu'il ne demande pas beaucoup habituellement, mais il a vraiment demandé ça. J'ai attendu encore quelques jours parce que je suis psychanalyste à Moscou et je ne voudrais pas partir sans parler la dernière fois avec quelqu'un qui me visite.
Vous ne vouliez pas quitter la Russie sans pouvoir échanger des derniers mots avec vos patients.
Pour attendre un peu réaction, comment ça va.
Gleb, écoutez ce reportage de Sophie Jousselin, journaliste au service étranger d'RTL.
Il sourit timidement en treillis militaire, poignard à la ceinture et fusil mitrailleur à l'épaule. La photo a été prise quelques jours après sa mobilisation. Artyom avait 40 ans, il avait servi en Tchétchénie il y a plus de 20 ans. Selon ses proches, il avait peur de partir en Ukraine. Il a quitté sa ville dans l'Oural le 28 septembre. mois, le 8 octobre, il était tué dans la région de Kherson. Les témoignages se multiplient sur les réseaux sociaux au fur et à mesure que les corps des soldats mobilisés sont rendus à leurs familles. Tous sont morts une dizaine de jours après avoir été convoqués par l'armée. Andrei, 28 ans, juriste à Saint-Pétersbourg, a été tué dans le Donbass. Andrei, 29 ans, de Moscou, n'avait aucune expérience de la guerre. On lui avait promis 2 mois de formation. Yaroslav, lui, avait 24 ans. Il avait écrit à sa tante qu'il n'avait tiré que 5 fois à blanc avant d'être envoyé au front.
Gleb, vous avez eu peur de faire partie de ces hommes qui n'étaient pas formés, qui sont partis sur le front directement et qui ont perdu la vie, comme on vient de l'entendre?
Oui, parce que, mais en fait, c'est un peu étrange parce que cet acte que je fais, c'était motivé pour moi d'une façon un peu différente. Je comprends que ce peut être un peu étrange, mais j'avais une grande motivation de rester en Russie, en fait. Parce que pour moi, ce travail comme psychanalyste, il y était aussi quelque chose qui a beaucoup de sens dans la situation de la guerre et la situation de dictature.
Merci beaucoup, Gleb. Merci à vous pour votre témoignage, Sylvie Berman. Oui. Gleb, il a du courage, il a fui la Russie, il a fui Moscou, il n'avait pas envie d'être un nom parmi tant d'autres. Aujourd'hui, les Russes, cette population russe, offre aussi une leçon au monde occidental.
Alors, je crois que c'est
une partie de la population.
Une partie de la population, une partie infime qui est souvent celle des villes.
Ouais.
Sûrement pas assez, mais je crois qu'il y a ceux qui ont manifesté tout au début de la guerre et qui sont déjà partis. C'était très courageux de le faire, ce n'est jamais facile de quitter son pays. Gleb, finalement, a la chance de parler bien français, de pouvoir s'intégrer. Pour d'autres, ce n'est pas si facile. Et donc, cette guerre est à la fois tragique, évidemment, pour les Ukrainiens, parce que, bon, on ne revient pas à la vie, bien évidemment, mais ils se reconstruiront, ils auront une réputation renforcée dans le monde, alors que pour les Russes, le pays risque d'être un paria pour des années.
Oui.
Et c'est une tragédie pour la Russie aussi. C'est la guerre de Poutine et beaucoup de Russes vont le payer cher.
Merci beaucoup Sylvie Berman, ancienne ambassadrice de France en Russie, au Royaume-Uni, en Chine. Vous restez avec nous en studio. Vladimir Poutine continue de menacer d'attaque nucléaire l'Ukraine. Est-ce un nouveau coup de bluff? Je vous pose la question dans quelques secondes dans Focus.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus.
13h, 14h.
Focus dimanche sur RTL.
Avec Mohamed Bouafsi.
Madame l'ambassadeur, c'est votre livre, Sylvie Berman, publié aux éditions Talendier, une carrière de plus de 40 années pour la France et surtout son image. J'ai lu votre récit, on le dévore comme un roman, avec des anecdotes, des rencontres et des coulisses.
Oui, tout à fait. Donc, j'ai passé 41 ans dans la diplomatie et j'avais envie de transmettre cette expérience, à la fois de décrire un peu les paysages, mais également les rencontres avec des personnalités exceptionnelles, de montrer ce qu'est ce métier qui est très mal connu.
Oui.
En fait, un ambassadeur, c'est la voix et le visage de son pays.
Mmh.
Parce qu'on voit les événements internationaux quand il y a une visite ministérielle, présidentielle, mais il y a le quotidien. Et le quotidien, c'est les rencontres, les interventions dans les universités, les interventions devant la presse et la promotion de nos intérêts économiques, culturels, etc.
Vous parlez dans ce livre de la Russie de Vladimir Poutine. Les auditeurs de RTL pourront découvrir ce chapitre. Vous parlez notamment des héros français, Alexandre Dumas en Russie, en expliquant que la France fascine un petit peu la population russe. Vous l'avez rencontré, Vladimir Poutine?
J'ai rencontré Vladimir Poutine, absolument. J'ai
Est-ce
eu l'occasion.
Est-ce que comme Angela Merkel, il a essayé d'appuyer son autorité sur vous ou sur les correspondants français qu'il avait en face de lui?
Non, parce qu'en fait, la seule fois où je l'ai vu vraiment en tête à tête, c'était au moment de la présentation de mes lettres de créance. Et c'est pas d'ailleurs en tête à tête. Il y avait d'autres ambassadeurs qui présentaient leurs lettres de créance en même temps, et on avait quelques mots d'échange avec lui. Il était extrêmement courtois et souhaitait d'ailleurs un développement des relations avec la France. Et sinon, je l'ai beaucoup vu avec le président de la République, y compris à Brégançon ou avec Jean-Pierre Chevènement.
Sylvie Berman, pour Vladimir Poutine, nos pays européens, les États-Unis, l'Occident en général, c'est l'empire du mensonge. Il nous hait, il déteste nos modes de vie. Vous l'avez déjà entendu avoir ces mots, Sylvie Berman?
Alors non, il y a un changement de ton et on le voit d'ailleurs dans sa gestuelle, l'expression de son visage, il a l'air perpétuellement en colère. En revanche, ça fait longtemps qu'il dénonce ce qu'il appelle aujourd'hui l'Occident collectif, c'est-à-dire les pays européens devenus vassaux des États-Unis, et dans son esprit, ils veulent détruire la Russie. Et ça, c'est à la fois lié à l'OTAN et au fait que l'OTAN, finalement, s'est approché des frontières russes, alors qu'il considère que des promesses avaient été faites à la Russie de ne pas, justement, rapprocher l'OTAN de la Russie. Donc c'est pour ça qu'il parle d'empire du mensonge, qu'il a le sentiment d'avoir été trompé.
Il est dans quel état d'esprit aujourd'hui, selon vous ?
Je ne suis pas dans sa tête, mais ce qu'on voit, ce que je dis, c'est qu'à chaque fois qu'il s'exprime, on a le sentiment qu'il est en colère. Je pense qu'il est frustré, probablement humilié des échecs de l'armée russe, considérée comme la deuxième au monde, à la fois par Vladimir Poutine, qui l'avait modernisé, mais également par le reste de l'Occident.
Émilie Bojard et Jonathan Griveaux sont nos deux envoyés spéciaux en Ukraine. Écoutez ça.
Alexander ne veut plus faire de spéculation. Il prend les nouvelles comme elles viennent.
Vous savez, en février, j'étais sûr qu'il n'y aurait pas de guerre. Alors là, vous me parlez d'une bombe sale. Tout est possible maintenant. Mais bien sûr, encore une fois, j'espère que ça n'arrivera pas.
Et les Ukrainiens ne veulent pas céder à la panique. Après 8 mois de guerre, ils ont appris à prendre du recul sur leur situation et leur avenir. Victoria sort d'un café avec deux amis.
On n'a pas stocké de nourriture ou autre. Faudra peut-être qu'on le fasse dans les prochaines semaines, mais je ne crois pas que Poutine pourrait lancer une bombe nucléaire. Ce serait une terrible catastrophe, pas seulement pour nous, mais aussi pour l'Europe.
De son côté, le président ukrainien appelle le monde à réagir aussi durement que possible.
Sylvie Berman, on sait que l'armée de Vladimir Poutine a été battue dans la région de Kharkiv. Aujourd'hui, les combats se concentrent dans l'agglomération de Kherson. Les combats sont rudes. Vladimir Poutine, comme on vient de l'entendre, est capable d'utiliser des armes chimiques pour accélérer les combats. Aujourd'hui, on parle de bombes sales sur l'Ukraine. Il en est capable ?
Alors, il est capable, en tout cas, de menacer, oui, parce qu'il le fait depuis le début du conflit. L'idée de recours à l'arme nucléaire tactique, en particulier, flotte depuis le début de cette guerre. Ça ne veut pas dire qu'il va le faire, parce que je pense que s'il recourt au nucléaire, il perdra le soutien de la Chine, de la Turquie, de l'Inde et d'un grand nombre de pays. De manière récurrente, il rappelle aussi la doctrine nucléaire russe, donc qui est de non-emploi de l'arme nucléaire, mais il n'empêche que cette idée flotte quand même. Et là, l'idée de bombe sale qui est complètement différente, c'est aussi une manière d'accuser les Ukrainiens, puisque c'est parti de là. Et en même temps, évidemment, tout le monde soupçonne de vouloir en réalité l'utiliser pour trouver un prétexte et accuser les Ukrainiens. C'est pour ça qu'il y a une inquiétude qui est permanente. Mais ce qui est frappant dans l'état d'esprit des Ukrainiens, c'est qu'aujourd'hui, la guerre a été un choc incroyable parce qu'aucun, effectivement, n'y croyait et ça paraissait totalement déraisonnable. Mais aujourd'hui, ils y sont habitués, ils savent pourquoi ils se battent, pour défendre leur pays, leur identité. Et la population, effectivement, c'est des témoignages qu'on entend souvent, n'a pas peur.
Sylvie Berman, Emmanuel Macron a souvent répété qu'il continuerait de négocier avec Vladimir Poutine, que la diplomatie, c'est communiquer avec ceux qui ne partagent pas nos valeurs. Le président de la République a raison. Vous évoquez d'ailleurs la relation entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine dans Madame l'ambassadeur de Pékin à Moscou, une vie de diplomate.
Effectivement, le président de la République avait voulu, et en particulier à Brégançon, proposer une architecture de sécurité européenne incluant la Russie. Donc de toute façon, il faudra revenir un jour. Bien sûr qu'il a raison. Alors on a pu lui reprocher de continuer à appeler trop longtemps Vladimir Poutine alors qu'il n'y avait aucune chance de mettre fin à la guerre. Depuis, il le fait sur des sujets précis, comme la mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique à Zaporijja ou les exportations de blé. Mais de toute façon, un jour, il faudra reparler avec Vladimir Poutine. Il l'a dit très récemment à Rome.
Mais il l'a expliqué, il faudra gagner la guerre, mais surtout ne pas perdre la paix. C'est comme ça qu'Emmanuel Macron a souvent qualifié la fin de ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. Une dernière question, Sylvie Berman. Vous avez vécu, je le disais, plusieurs années en Russie. On entend souvent que les Russes ne partagent pas le point de vue de Vladimir Poutine. Vous citez tout à l'heure, après avoir entendu le discours de Gleb, une partie infime, c'est pas suffisant, on l'entend. Pourquoi on n'assiste pas à un soulèvement de la population russe ?
Parce qu'il ne faut pas oublier le passé de la Russie, y compris les années Yeltsin, qui ont été des années de déstabilisation, de troubles, d'humiliation aussi pour la Russie, parce qu'elle ne comptait plus dans le monde et qu'il y avait une insécurité, une inflation à 2500%, et qu'en fait, Vladimir Poutine leur a apporté la stabilité. Et donc, les journaux libéraux, radio, télévision ont été fermés. Il y a des menaces d'emprisonnement pour ceux même qui prononceraient le mot de guerre. Donc, en réalité, ceux qui sont opposés, ce sont des intellectuels, ce sont des journalistes, des artistes, des écrivains, des jeunes. Beaucoup étant partis d'ailleurs, l'opposition est beaucoup plus restreinte aujourd'hui. Donc il ne va pas y avoir de soulèvement en Russie. Puis on parle souvent du fatalisme des Slaves. Il ne faut pas oublier que c'est le plus grand pays au monde, le plus vaste géographiquement, et que finalement, dans des régions isolées et pauvres, ils n'ont pas nécessairement accès à toutes les informations que nous avons.
Je ne pouvais pas ne pas évoquer un passage du livre « Malaise dans la mondialisation, le Brexit ». Vous avez été ambassadrice au Royaume-Uni et vous livrez dans votre récit chez Talendier, Madame l'ambassadeur, des anecdotes savoureuses sur vos rencontres avec la reine et surtout avec le roi Charles III. Vous avez connu le prince et désormais il est roi.
Oui, absolument. Donc, je raconte ce moment unique dans une vie diplomatique et la rencontre avec la reine, parce qu'on a l'impression d'être face à l'histoire, parce qu'on sait qui elle a connu, tous les premiers ministres, tous les présidents, et puis en plus, des personnes qui étaient charmantes et qui avaient beaucoup d'humour, et qui a permis le maintien de l'unité dans un pays effectivement assez fracturé par le Brexit. Le prince Charles, à l'époque, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, et je l'ai rencontré d'abord parce qu'il avait voulu visiter un bâtiment de la marine française au moment du sommet de l'OTAN à Cardiff. Il avait demandé à parler français, il s'est adressé à tous les marins, et c'est quelqu'un d'assez chaleureux et qui avait à cœur effectivement d'échanger. Et puis je lui ai même remis ce qu'on appelle le poireau, les insignes de commandeur du mérite agricole pour toute l'action qu'il a menée sur l'environnement. L'écologie. Effectivement, c'est quelqu'un d'intelligent, de cultivé, et qui est vraiment un précurseur sur les questions d'environnement. À l'époque, les gens riaient, mais il avait raison, absolument.
Merci Sylvie Berman d'avoir partagé avec nous vos éclairages sur ce monde qui change, bouleversé par les conflits et les guerres. La guerre en Ukraine, c'est le sujet développé par Marion Calais dans le podcast Focus de mercredi dernier consacré au grand retour des espions russes. Plus de 30 degrés à Clermont-Ferrand, 25 à Paris, 28 à Toulouse. Les températures sont douces, trop douces selon les météorologues. Laurent est viticulteur à Leucate, près de Narbonne. Désormais, il produit de l'aloe vera, cette plante habituellement cultivée dans les pays chauds. Le réchauffement climatique a changé la vie de Laurent. Il nous l'explique sur RTL.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus dimanche.
21 degrés à Paris, 23 à Metz, à Toulouse, 24 à Vichy. Ce dimanche est très ensoleillé en France. Vous allez peut-être profiter d'un repas au soleil dans quelques minutes. Oui, un barbecue en plein mois d'octobre dans quelques secondes. Cette douceur est très inquiétante à cause du changement climatique qui entraîne aussi des changements de vie. Laurent est viticulteur à côté de Leucate, entre Narbonne et Perpignan. Il est devenu producteur d'aloe vera depuis quelques années en raison du changement de température. Bonjour Laurent.
Bonjour Mohamed.
Laurent, comment on passe de viticulteur à producteur d'aloe vera ?
Alors, c'est une diversification. Je n'ai pas laissé tomber l'activité viticole. Mais les terroirs qu'exploitaient mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, ne sont pas tous adaptés à la culture de la vigne en raison du changement climatique. Et donc, nous nous sommes diversifiés. Sur les terroirs les plus secs, les plus pauvres, on est en train de planter de l'aloe vera.
Écoutez Laurent, Louis Baudin, est-ce qu'il est inquiet par cette douceur qui règne en France ? Il était l'invité de Pascal Praud de RTL Midi, c'était mercredi dernier.
Alors moi, ce ne sont pas les événements particuliers qui m'inquiètent. Je le redis, moi c'est la moyenne, c'est le bruit de fond. C'est-à-dire qu'il y a des événements plus chauds, plus froids, il y a toujours eu. Et d'ailleurs, quand il va faire plus froid, qu'est-ce que je pourrais dire à ceux qui disent « bah alors, il est où votre réchauffement ?» Donc ce n'est pas ça la question. La question c'est que de mois en mois, d'année en année, on voit que les moyennes, elles, continuent à grimper. Donc c'est plus ça qui doit nous préoccuper. occupé que des événements
particuliers. C'est le mois le plus chaud, par exemple, en France.
Alors, on va le mesurer à la fin du mois. Hein,
a priori, mais...
A priori, on devrait être dans un des mois les plus chauds, peut-être un des mois d'octobre qu'on n'a pas pu voir depuis quelques décennies.
Ça vous inquiète, vous aussi ?
Bien sûr que ça m'inquiète, mais cette transition où on est sur un mois qui est chaud, mais qui reste vivable, on peut sortir, on peut travailler, de ce côté-là, il n'y a pas de grosses contraintes. Par contre, on parle de chaleur, mais nous, on a un problème aussi de sécheresse, donc qui vient se rajouter. Il y a plus de 6 mois qu'on n'a pas eu d'eau sur Fitou. Donc, tout à l'heure, on évoquait un phénomène, mais c'est une somme de phénomènes comme ça. Température plus importante, moins d'eau, des températures qui nous amènent à vendanger en juillet. L'an dernier, on a eu moins de 200 mm d'eau sur la période de culture des vignes. C'est un climat aride, c'est un climat désertique aussi. Donc, autant de phénomènes qui se multiplient et on voit bien qu'on est sur des problèmes extrêmement importants.
Pour que les auditeurs comprennent, Laurent, depuis 6 ans, vous avez vendangé 3 fois. En juillet, ce qui n'est jamais arrivé à vos parents. Vous avez repris les vignes de vos parents, ce n'était jamais arrivé pour eux.
On est vigneron à Fitou avec nous depuis 13 générations. Donc on voit sur 3 générations, mes grands-parents, mes parents et nous, les dates de récolte sont de plus en plus précoces. Donc c'est totalement aberrant. Et maintenant, depuis 6 ans, on vendange 1 an sur 2 en juillet. Donc on voit bien que ce n'est pas un épiphénomène au départ, on voit bien que ça devient la norme.
Vous êtes inquiet pour la filière viticole ?
On a une montée des températures. Donc, produire de la vigne, on pourra toujours produire de la vigne un peu plus au nord. Donc, on commence à avoir des vignes plantées en Belgique. Donc, voilà, on voit qu'il y a une évolution de la plantation des vignes. Maintenant, nos modes de consommation vont aussi changer. On boit moins de vin. On boit moins de vin quand il fait chaud. On boit plus de bière, par exemple. Il y a une évolution de notre mode de consommation.
Aujourd'hui, vous avez 10 hectares. De vignes. Vous en aviez 18 auparavant.
Tout à fait. Il y a 5 ans, on avait 18 hectares. Donc, on voyait au départ arriver ces problèmes, ces changements. On voulait aussi se donner le temps de le faire de manière sereine. Donc, ça veut dire moins de travail pour nous, pour plus de réflexion, trouver les cultures. Donc, on avait abordé plein de cultures différentes. L'amandier qui est présent, l'olivier, mais qui ont besoin d'eau. On avait regardé aussi le pistachier. On voit aussi que ces productions ont tendance aussi à migrer vers le nord, donc et sur des surfaces beaucoup plus importantes. Donc les marchés, à un moment, vont arriver à saturation. Donc on a cherché des plantes qui étaient propices à notre culture, qui se récoltaient à la main, qui étaient cultivées en proximité de la mer.
Vous habitez à Leucate, entre Narbonne et Perpignan. Vous craignez dans le temps de devoir mettre de côté totalement votre filière viticole ?
Pas vraiment non plus, parce que on voit aussi du côté de l'INRA des recherches qui sont faites sur des cépages. C'est pas de l'OGM, hein, c'est de l'hybridation, ça a plus d'un siècle. Donc, et ces cépages vont sortir prochainement, donc l'INRA est en train de les développer. Nous, on a goûté certains de ces cépages qui sont résistants à la fois aux maladies phytosanitaires, mais aussi à la montée en température. Et donc, certains cépages m'intéressent particulièrement.
Avec ces changements de température, vous l'avez remarqué, Laurent, on parle beaucoup en ce moment de pénurie, de difficultés. On pourrait avoir dans 20 ans, 15 ans, nous, la France, ce grand pays de la filière viticole, des pénuries de vin ?
Non, parce qu'on plantera un peu plus de vignes au nord de la Loire. Hein, donc, c'était plutôt au sud, on en plantera au nord. Non, les vignobles continueront à se développer, mais un peu moins.
Mais il aura un goût différent.
Mais c'est évident. Et puis, de toute façon, prenez les vins que goûtaient, que buvaient nos grands-parents sont différents de ceux que l'on boit aujourd'hui, et ceux que boiront nos enfants, nos petits-enfants, seront aussi différents, donc c'est certain.
Laurent, merci beaucoup d'avoir témoigné ce midi dans Focus Dimanche sur RTL. Avec modération, le vin quand même, Laurent.
Tout avec modération.
Voilà. Merci à vous, Laurent. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Merci d'avoir été l'invité de Focus Dimanche sur RTL. Merci à vous. À bientôt, Laurent. Bon dimanche.
Au revoir.
Un grand merci à Patrick Tégéro qui nous a permis d'avoir Laurent avec nous ce midi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Focus Dimanche sur RTL et je vous en remercie. Focus Dimanche, c'est l'émission des entretiens avec ceux qui font l'actualité chaque semaine à 13h sur RTL le dimanche. Et vous pouvez retrouver le podcast Focus de Marion Calais sur l'application RTL, un titre de l'actualité qui est décrypté chaque jour par la rédaction. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Josiane Balasco. Elle est l'invitée de Bruno Guillon dans le Bon Dimanche Show.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus.